La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour Alice. Bonjour tout le monde. La métropole de Brest regroupe donc 8 communes. J'ai quand même un peu révisé avant qu'on enregistre cette émission et compte un peu plus de 210 000 habitants. Et le plus remarquable, en fait, qui m'a frappé en préparant cette émission, c'est la densité des équipements culturels mis en avant sur le site internet de la métropole. J'avais envie depuis plusieurs mois et plusieurs semaines, et cette envie s'est accentuée avec la reprise de l'épidémie, de donner la parole à une professionnelle, une collègue du CNFPT, et pas une professionnelle du milieu culturel associatif, une collègue qui gère des équipements dans une ville, qui est au contact à la fois du public et des agents qui eux-mêmes sont au contact de la population, parce que j'avais envie de vraiment avec vous, Alice, de focaliser l'enregistrement sur la fréquentation des lieux et des équipements culturels où il y a de la pratique amateur. Donc je pensais en particulier au conservatoire de musique, parce que nous avons évoqué ce sujet à de nombreuses reprises sur la e-communauté. Et puis éventuellement, si on a le temps, j'aimerais aborder avec vous, Alice, des ateliers de pratique artistique de type Beaux-Arts. Et enfin, si il nous reste 5 minutes, les lieux de spectacles vivants, les salles de concert. Je précise que nous n'aborderons pas les bibliothèques, car Thibaut Canuti, qui anime la e-communauté à mes côtés, est directeur conservateur de bibliothèque et il traite ce sujet à son niveau. Bonjour Alice.
Bonjour Bertrand, bonjour à toutes et tous.
Donc, je reviens sur le préambule de mon introduction. J'ai envie d'évoquer avec vous la pratique culturelle de nos concitoyens. Qu'en est-il alors qu'on entame une 5e vague épidémique de la vie culturelle des habitants de Brest en ce moment?
Alors la vie culturelle quotidienne des habitants de Brest a plutôt bien repris cette année, même si là dans ce démarrage de 5e vague, on commence à avoir des comportements de prudence un peu naturels qui s'installent. Le constat qu'on fait, c'est que désormais, ce contexte pandémique est bien intégré aux différents niveaux de la vie quotidienne des habitants, avec quand même des pratiques assez différentes. Il y a ceux qui ont arrêté de pratiquer. Je pense que c'est un constat qu'il faut partager. Par exemple, dans les écoles de musique, on voit que nous n'avons plus de liste d'attente, donc c'est le cas au conservatoire, mais c'est le cas dans les autres écoles de musique du territoire, avec sur certains cours des difficultés pour remplir les cours que nous n'avions pas du tout précédemment. Donc ça n'a pas forcément généré de baisse de fréquentation, puisqu'à un moment, les cours se sont néanmoins remplis, mais on se rend compte qu'on a des personnes, des anciens pratiquants ou des pratiquants nouveaux qui ont disparu de notre fonctionnement précédent. On n'a pas vraiment de chiffres là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on se dit toujours qu'on va attendre de sortir de la crise pandémique pour vraiment en faire une analyse complète, mais la crise du rang, c'est sûrement un sujet sur lequel il faudra qu'on se penche. Et sinon, on a deux autres types de pratiquants qui, eux, ont continué, ceux qui pratiquent avec le pass sanitaire. Donc, on est là plutôt dans la pratique publique de celui qui va à des concerts, va à des spectacles, profite de la vie culturelle de façon générale. Là-dessus, le constat qu'on fait dans les salles, c'est que le public brestois résiste plutôt bien, mais a quand même un petit peu baissé. avec une particularité à Brest qui est que notre scène nationale, qui a une très grande salle, est aujourd'hui en travaux. Nous avons donc fermé la plus grande salle de Brest et nous avons du mal à identifier si l'occupation qui reste relativement dense de tous les autres lieux, puisque la perte de fréquentation est entre 7 et 10%, là où ailleurs sur le territoire, on nous annonce plutôt entre 20 et 30%. Si c'est lié à une meilleure résistance du public brestois à la pandémie, mais aussi c'est lié au fait qu'il y a de fait moins de places ouvertes sur la métropole en ce moment. Le troisième type de public, c'est celui qui pratique dans le cadre d'un apprentissage, donc qui ne relève pas du pass sanitaire, mais qui pratique plutôt avec des mesures de distanciation. Ces mesures sont désormais bien calées et on sent que elles sont intégrées par tous, enseignants comme pratiquants qui ont envie de pouvoir continuer à faire qui de la musique, qui de la du théâtre, qui des arts plastiques, etc.
Merci Alice. J'aimerais revenir donc quelques minutes sur le conservatoire. Je rappelle pour les personnes qui nous écoutent, c'est un gros conservatoire qui accueille 2000 élèves avec une équipe de 90 enseignants, une équipe de 25 agents techniques et administratifs. Donc c'est un très bel équipement. Et un point intéressant ce soir, c'est que c'est un équipement qui accueille des enfants, des adolescents et également des adultes. Donc j'ai deux questions sur la perte d'élèves dans certaines classes. Est-ce que ces pertes d'effectifs touchent uniquement les enfants ou ça touche également les adultes? Et est-ce que vous avez des idées de proportions de public qui baissent entre adultes et enfants et adolescents?
Je vous remercie pour cette question parce que ça nous a permis d'aller vérifier. La baisse est dans des proportions relativement constantes partout, c'est-à-dire que on est passé d'environ 2000 élèves travaillant au conservatoire à environ 1900. Donc c'est une baisse très relative. Nous n'avons plus de liste d'attente hormis en piano, alors qu'habituellement on avait des listes d'attente aussi dans un certain nombre de cours très pratiqués, la guitare, le violon, certaines classes de danse, etc. Donc ça a baissé dans des proportions faibles, mais à peu près partout. Et donc on garde une fréquentation à peu près similaire aux années précédentes, c'est-à-dire à peu près 40% d'élèves enfants, 25% d'élèves adolescents, et puis le reste qui sont des adultes, c'est-à-dire 35%, dont 24% qui sont vraiment dans la vie active ou au-delà, c'est-à-dire qui ont plus de 25 ans. On a à peu près 11% d'étudiants entre 17 et 25 ans. Les changements d'habitude ou de pratique qu'on a pu constater, c'est surtout que les inscriptions ont été plus tardives que d'habitude. Donc les gens qui ont, les années précédentes, déjà fait l'objet d'annulations de cours basculés en visio, etc., ont attendu septembre pour se réinscrire ou pour réinscrire leurs enfants. Ça a été particulièrement vrai dans les disciplines les plus touchées, donc notamment le chant, et se sont réinscrits tardivement. Sinon, les effectifs sont relativement stables, c'est-à-dire qu'on ne constate pas de désinscription en cours d'année, pas plus que les années précédentes.
Merci. J'aimerais un peu évoquer avec vous, Alice, s'il y en a, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait, mais j'ai quand même l'impression que ça existe, des ateliers de pratique artistique de type Beaux-Arts. Récemment, j'avais fait un entretien avec une de nos collègues qui travaille à Port-de-Bouc. Et à l'occasion de la pandémie, certaines directions d'établissement ont mis en place des moyens techniques pour assurer ou maintenir une activité entre les profs et les élèves pour des pratiques de dessin, par exemple. Comment avez-vous géré cette crise, l'après-crise, avec les inscriptions? Et est-ce que vous avez déjà mis en place des mesures de rattrapage en cas de reconfinement?
Alors c'est l'école d'art à Brest qui assure ces ateliers d'art plastique, donc l'école européenne supérieure d'art de Bretagne qui a des sites, c'est un EPCC avec des sites à Brest, à Rennes, à Quimper et à Lorient. En ce qui concerne Brest, on a une petite vingtaine de cours publics qui sont ouverts, 6 à destination des enfants et des adolescents et 13 à destination des adultes. de façon générale, ce qui donne un effectif d'à peu près 300 personnes concernées par ces cours d'art plastique. On a aussi quelques ateliers plutôt privés proposés par des plasticiens sur lesquels j'ai moins de chiffres. En ce qui concerne les observations qu'on peut faire à la fin de ce premier trimestre, c'est une plus grande plasticité, et je ne le dis pas pour faire un jeu de mots avec les arts plastiques, mais une habitude renforcée pour les enseignants de faire basculer éventuellement leurs cours quand c'est nécessaire sur d'autres formats. Mais sinon, ils ont repris. On n'a pas constaté d'investissement particulier dans des équipements informatiques. C'est plutôt un sujet qui nous préoccupe pour les étudiants de l'école d'art, donc ceux qui sont dans des cursus longs, et sur la manière dont leur enseignement peut continuer à être assuré en cas de reconfinement.
Oui, merci. C'est je peux apporter un éclairage à ce sujet. C'est vrai que travaillant pour la région Sud, nous avons commencé à cette année, là, en fin d'année 2021, à recevoir des dossiers d'établissements supérieurs d'enseignement artistique art visuel pour maintenir des cours à distance avec les étudiants. Donc ça confirme tout à fait ce que vous venez de dire, mais également à Marseille, des demandes d'équipement pour assurer une continuité sur les ateliers publics. Donc, c'est une petite différence. Concernant, on va très vite, mais on est un peu obligé pour balayer le maximum de sujets, le cinéma. Le cinéma, je pense que c'est un sujet presque à part, avec deux sous-sujets, le cinéma art et essai, qui semble-t-il est quand même particulièrement impacté par la baisse de fréquentation, pour des raisons qu'on arrive à expliquer, et le cinéma plus commercial. J'ai pas de récents chiffres, mais fin d'été de cette année, la baisse de fréquentation était suffisamment importante que les pouvoirs publics, et au premier chef le ministère de la Culture, accordent des aides au secteur et donc aux exploitants de salles de cinéma. Qu'en est-il à Brest?
On est dans un schéma qui est, je pense, relativement proche de celui qui se trouve au plan national. Les cinémas partaient plutôt d'une bonne fréquentation avec un public brestois qui avait l'habitude d'aller au cinéma, que ce soit le cinéma d'art et d'essai ou le réseau plus commercial. J'ai pas de chiffres particuliers sur la manière dont se déroule ce retour au cinéma depuis la rentrée scolaire. Ce que je peux vous donner plutôt, ce sont des tendances, c'est-à-dire des retours à la fois côté cinéma d'art et d'essai et côté cinéma commercial qui sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire des salles qui sont un peu inquiètes, qui voient que le public revient, mais dans des proportions bien moindres que précédemment, et donc très en vigilance sur la tendance de moyen terme.
Oui, ça peut s'expliquer, je pensais à ce que vous disiez en préambule. Les effectifs du conservatoire, quasi stables, avec des petites baisses dans certaines classes, moins de pression, en fait, d'effectifs sur certaines pratiques instrumentales. C'est vrai que le cinéma est à part, parce que le cinéma est le loisir culturel le plus populaire en France. Donc, effectivement, c'est aussi le plus touché, c'est mécanique. Et ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est que le cinéma art et essai, avec sa démographie de spectateurs, est plus touché que le cinéma commercial, dont la moyenne d'âge des spectateurs est beaucoup plus basse. Alice, concernant le spectacle vivant, j'ai récemment eu une discussion avec un ami chorégraphe qui travaille dans le sud-est de la France. Il disait que son secteur était particulièrement impacté par l'encombrement, l'embouteillage de spectacles en retard de programmation. Et donc, le secteur était soumis à un raccourcissement chronologique, à un raccourcissement des dates de diffusion des spectacles. Et donc, une contrainte financière beaucoup plus forte qu'auparavant. Est-ce que c'est des choses que vous observez à Brest?
Oui, on fait plusieurs constats du côté du spectacle vivant. Le premier, c'est que les saisons sont extrêmement denses, puisque les salles ont eu à cœur d'accompagner les projets qui n'avaient pas eu l'occasion d'être montrés depuis 2 ans, ce qui amène à des programmations globalement plus importantes que les années précédentes. Parfois, on va dire, jusqu'à la limite de charge des salles concernées, donc avec des équipes sur lesquelles on est en vigilance sur la soutenabilité même de ces programmations. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vu le nombre de spectacles qui sont présentés cette saison pour la première fois, on est relativement vigilant sur la capacité de tous ces spectacles à faire des tournées véritables, puisque tenir ce rythme, qui est un rythme qui tient grâce à l'enthousiasme des programmateurs, des équipes de salles qui sont extrêmement engagées et très motivées après ces années particulièrement hachées, ce rythme ne va pas pouvoir se tenir à ce niveau. Donc il va y avoir parmi ces créations un phénomène concurrentiel beaucoup plus important que d'habitude, c'est le constat qu'on fait. Donc ça, c'est véritablement une nouveauté de l'année, et vient s'ajouter à ça le fait que, à l'instar de ce qui se passe sur les différents ateliers de pratique culturelle, les publics des salles de spectacle sont dans une attitude vis-à-vis des spectacles qui est beaucoup plus prudentielle que d'habitude. Donc on a moins d'abonnements, plus de gens qui prennent leur place au dernier moment, des salles qui sont quand même relativement pleines, hein, comme je vous le disais, on est sur des fréquentations qui sont aux alentours de 90%, il n'y a pas vraiment de souci de ce point de vue-là, mais par contre une forme d'incertitude qui peut être un peu insécurisante, voire inquiétante pour les salles, puisqu'elles peuvent difficilement faire des paris sur des jauges pleines très longtemps à l'avance, hormis dans le secteur des musiques amplifiées, où là les têtes d'affiche, on continue à afficher complet bien longtemps à l'avance.
Merci. C'est vrai que c'est très juste, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que la contrainte, finalement, elle pèse en premier lieu sur les compagnies, sur les artistes, aussi quand même beaucoup sur nos collègues qui gèrent les salles. Et j'avais envie d'aborder justement un peu l'état d'esprit, le moral de nos collègues. J'ai constaté comme usager il y avait un grand souci de continuité du service public au conservatoire. Je pense notamment au conservatoire de Marseille, où les enseignants ont quand même fait preuve d'énormément d'imagination pour, par exemple, poursuivre des cours d'instruments à travers des applications de téléphone. Donc ça, c'est une chose qu'il faut souligner, c'est cette capacité d'invention que nos collègues ont eue tout au long de ces 2 années. Et je voulais simplement avoir un retour sur votre expérience à Brest concernant nos collègues, donc professeurs de musique ou professeurs d'art plastique.
Je voudrais saluer, comme vous venez de le faire, l'engagement des collègues sur toute cette période de crise. Ils ont réussi à poursuivre le service public dans des conditions extrêmement difficiles et que nous avions peu anticipé, il faut le reconnaître, tellement cette crise était inédite. La capacité à la fois des enseignants du conservatoire, des écoles de musique, des écoles d'art, de poursuivre leurs propositions, ce qui a été le cas pour l'immense majorité d'entre eux qui ont trouvé des ressorts infinis d'imagination pour poursuivre qui les cours de musique, qui les cours de théâtre, qui les cours de pratique type solfège, etc. Vraiment, c'est à noter. C'est également à noter du côté des collègues qui étaient sur les salles ou qui étaient en accompagnement. Nous ne parlerons pas des médiathèques, mais je voudrais aussi saluer leur action pendant cette période. C'est l'ensemble d'un secteur qui s'est positionné en soutien à la fois des artistes, artistes du spectacle vivant intermittent, mais aussi artistes plasticiens dont on a parfois moins parlé et qui ont passé une période particulièrement difficile, en soutien des publics pour leur permettre de continuer d'avoir des pratiques culturelles qui pour beaucoup étaient numériques dans cette période de fermeture, mais que nous avons effectivement à la fois créé, relayé, imaginé de façon différente. C'est quelque chose qui nous sert aujourd'hui. Les collègues ont développé une capacité à réagir au changement et une plasticité de leurs actions qui est fortement renouvelée par rapport à la période pré-pandémique. Donc c'est à la fois un élément positif puisque ça nous permet de réfléchir de façon différente et de façon très réactive à chaque nouvelle étape de cette crise. C'est aussi un petit point de vigilance sur ce temps de reprise parce que leur engagement très fort pour le secteur peut parfois générer des charges de travail qui sont incompatibles avec une activité sur une durée longue. Donc on est vigilant aussi à ce que le nombre de concerts programmés au conservatoire, le nombre de dates programmées dans les différents théâtres, le nombre de projets programmés en art plastique, etc., reste dans la capacité de soutenir de l'ensemble des protagonistes présents.
Merci Alice. Une dernière question. Beaucoup d'entreprises privées, beaucoup de collectivités ont adopté depuis maintenant 2 ans le télétravail. Donc les fonctionnaires, les salariés du privé qui peuvent le faire peuvent justement assez facilement travailler à distance. Est-ce qu'aujourd'hui le passage en travail à distance via des supports numériques est un sujet que vous discutez avec les élus de la métropole pour assurer de manière moins bricolée que ces 2 dernières années une continuité du service public?
Alors ça dépend des thématiques. On l'a beaucoup discuté déjà techniquement avec notre direction informatique qui eux aussi ont fait preuve d'une réactivité remarquable dans la période. Sur la question de la manière dont on peut cranter ou travailler de façon différente ce sujet du numérique dans le temps, on a eu des choix différents en fonction des secteurs. On va pas parler des médiathèques, mais c'est là où ça a avancé le plus vite, hein, avec des engagements numériques et une bibliothèque 24 heures sur 24 qui, elle, a très rapidement pu renforcer sa valorisation parce qu'un certain nombre de choses existaient déjà. Au conservatoire, ce qui a avancé le plus rapidement, c'est la question de la diffusion et des outils de médiation, c'est-à-dire la manière dont on fait des captations de concerts, dont on les met en valeur, etc. Ça, c'est ce qui a avancé le plus vite. Sur la question des possibilités de pouvoir poursuivre en numérique en cas de nouveau confinement sur des cours ou des choses comme ça, on a peu travaillé le sujet pour une raison simple qui était que dans un premier temps, personne n'en avait envie. Puisque quelle que soit la qualité des outils numériques possibles, la musique, c'est quand même quelque chose qui se travaille avant tout en présentiel. Et on a plutôt travaillé sur la période de réouverture à ramener les élèves en présentiel, construire les conditions sanitaires qui le permettaient et reconstruire une pratique qui avait pu être un peu bousculée, notamment chez les plus jeunes qui ont démarré leur pratique artistique en mode confiné sur un retour en présentiel. C'est donc un sujet qui reste à mener et qui reste à interroger.
Merci Alice. Merci Alice et puis merci chers auditeurs. J'espère que nous avons pu rapidement balayer cette thématique qui est vaste, qu'on n'a pas fini d'épuiser, de la pratique culturelle des Français sur le territoire, en milieu rural, mais aussi dans des métropoles comme celle de Brest. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Fréquence T. Je vous remercie.
Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.